France Inter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Nous sommes à vos côtés tous les jours de 10h à 11h en direct sur France Inter. Tu vas voir, ça va te faire du bien de prendre un peu le soleil, ça te changera de la grisaille parisienne. Certes, alors la phrase n'a pas lieu d'être aujourd'hui, la canicule a envahi nos corps du nord au sud, mais combien de fois l'ai-je entendu ? Combien de fois le soleil fut envisagé comme le meilleur des remèdes ? Un rayon contre la fatigue, un autre pour dorer la peau, un autre encore pour éclaircir les cheveux. Moi, je l'ai aimé, ce soleil éblouissant de la Méditerranée, chéri par Camus. J'ai appris aussi à m'en méfier, à me protéger de son agressivité. Mais chaque été, la phrase revient. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Comme si nos corps, en cette saison estivale, n'étaient pas ceux du reste de l'année. Et vous, est-ce que votre corps se transforme au premier jour de juillet ? On attend vos témoignages au 01 45 24 7000, vos courriels et notes vocales sur l'application de Radio France. Et vous pouvez également nous laisser un message sur la page Facebook ou sur WhatsApp. Nous sommes le 1er juillet, vous écoutez France Inter, Grand Bien vous fasse, c'est aussi l'été.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Eva Rock.
Montrer votre poitrine, ça ne vous gêne pas ?
Absolument pas.
Est-ce que ça gêne les autres, à votre avis ?
Je pense pas.
Je suis venue en vacances pour me faire bronzer, bien sûr. Et j'ai trouvé ça tellement agréable de pouvoir se mettre à l'aise, se faire bronzer torse nu, que personne ne vous remarque. Je trouve ça terrible. Et vous voyez, je l'ai fait dès le premier jour, je ne pense pas avoir de marque. Je trouve ça vraiment très très agréable.
Est-ce que vous avez l'impression d'être indécente ?
Pas du tout.
Où est-ce qu'elle commence, l'indécence, pour vous ?
De toute façon, pas quand on est nu. Non, l'indécent, je trouve qu'il est indécent de se promener dans Saint-Tropez en maillot de bain, en ville. Mais sur les plages, on peut être même tout nu, c'est pas gênant du tout.
C'était l'extrait d'une archive de l'INA de 1970. Que raconte de nous et de notre société ces corps d'été ? Nous allons poser la question à nos deux invités. Bonjour Margot Cassan.
Bonjour.
Philosophe et écrivaine, vous avez publié en 2023 « Vivre nu », livre remarquable sur votre expérience du naturisme. Vous avez reçu à cette occasion. Il y était déjà question de corps, évidemment, et vous poursuivez votre travail en vous intéressant au bronzage dans ce dernier essai intitulé « Ultraviolet ». C'est toujours édité chez Grasset. Et je suis ravie de vous présenter la personne qui est à vos côtés, Christophe Granger. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Historien, enseignant à Paris-Saclay, vous avez publié un ouvrage référence, La saison des apparences, naissance des corps d'été, c'est aux éditions Anna Moza. J'aimerais débuter cette émission avec une question personnelle pour tous les deux et qui fait appel à vos sens. Si vous imaginez votre corps en ces jours d'été, quelle est la première sensation qui vous vient à l'esprit, Margot Cassan ?
La sensation, c'est un peu comme, j'imagine être ces femmes dans les années 30 qui retiraient leur corset. Et d'un coup, ça se dégrafe et il y a un sentiment de libération. C'est un peu ça, je dirais.
Et le soleil sur votre peau aussi, ou
et
pas ?
Le soleil sur la peau aussi. En ce moment, je dois dire qu'il est un peu moins agréable.
Ouais.
Il est trop fort. Mais d'ailleurs, on le voit dans l'archive, ce que la femme dit dans l'archive dans les années 70. Aujourd'hui, on ne le dirait pas parce que le champ lexical qu'on associe au soleil, qui était, ben, elle, si sex and sun, un sentiment de libération, aujourd'hui, c'est plutôt un principe négatif. La canicule le montre, mais aussi la maladie, le vieillissement cutané. Donc les associations ne sont pas du tout les mêmes.
Oui, on va y revenir et c'est au cœur de votre livre, évidemment, Ultraviolet. Christophe Granger, c'est vous, c'est quelle sensation qui vous vient à l'esprit quand on parle de ce corps d'été ?
J'aurais bien dit la liberté aussi, mais c'est plus ambivalent, c'est-à-dire qu'il y a ça, avec des sensations qu'on n'éprouve pas le reste de l'année, mais je ne peux pas m'empêcher aussi d'être très attentif à ce que ça dit collectivement de nos transformations, peut-être par des formations professionnelles, mais j'y vois aussi tout un tas de choses qui ont changé dans nos sociétés, qui peuvent être tolérées à un moment et pas tolérées à d'autres. Donc c'est une forme de sensation de liberté, ça c'est sûr, mais rattrapée par beaucoup d'autres choses.
On va parler de ces contraintes en fait, qui sont associées à ce mot liberté, à la fois dans le corps, mais aussi avec ces arrêtés municipaux qui régissent aussi nos corps sur les plages notamment, mais aussi dans les rues, comme on vient de l'entendre avec les rues de Saint-Tropez. Margot Cassan, vous venez de dire le mot canicule, parce que c'est difficile aujourd'hui de ne pas dire le mot canicule, on est bien d'accord, même dans ce studio. Et il se trouve d'ailleurs dans votre essai. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler l'étymologie de ce terme, parce que c'est assez amusant quand même.
Oui, ça m'intéresse toujours de regarder le sens des mots et d'où ils viennent. Canicule, c'est canicule, petite chienne en latin. Ben voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus.
C'était quoi? C'était les Romains qui avaient coutume de sacrifier, c'est ça, des petites chiennes rousses?
Oui, exactement. Mais aujourd'hui, quand on y pense, la canicule comme la petite chienne, c'est le principe mortifère, c'est la femme comme une menace. Et c'était aussi ça à l'époque. Qui était évoqué.
Ouais, on va y revenir évidemment sur l'image de la femme dans ses corps d'été. Christophe Granger, lors d'une précédente émission, on avait évoqué la plage. Alors c'est évidemment le premier lieu auquel on pense quand on parle des corps d'été. Et vous m'aviez fait remarquer à l'époque, je m'en souviens, que la plage, c'est pas toujours le lieu de plaisir. La plage, c'est les plages du débarquement, par exemple. C'est les plages où débarquent les migrants. C'est un lieu de discrimination raciale également. La canicule, elle vient aussi distinguer ces corps, je trouve, parce qu'il y a le corps du travailleur, il y a le corps de l'employé dans le bureau, le corps du retraité, le corps de la personne plus jeune qui peut résister. On sent qu'il y a une distinction sociale aussi.
Complètement.
Dans ce corps d'été.
Complètement. Et ces formes de distinction-là, qui sont présentes à la fois dans la construction des lieux, mais aussi dans la façon qu'on a de les habiter. C'est-à-dire, au même endroit, on peut vivre les lieux comme une plage de façon très, très disparate. Et on oublie tout le temps ça, on ne devrait pas. C'est-à-dire, on oublie que le modèle auquel on s'attache, le fait d'être bronzé, par exemple, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire rentrer dans un modèle qui s'est constitué, qui exclut autant qu'il inclut. Et passer du temps à réfléchir à ça, se plaindre du chaud sur la plage, et regarder comment d'autres personnes le vivent au même endroit. Ça me semble vraiment fondamental.
Ce que vous dites, donc, c'est que c'est une construction sociale. C'est-à-dire qu'à la fois ces lieux et ce corps dont on parle, et dont nous allons parler pendant une heure, c'est une construction sociale.
La façon de vivre le corps, mais même de façon beaucoup plus subtile entre ceux qui ont l'habitude d'accéder à ce modèle estival et ceux qui ne l'ont pas.
Bien sûr.
Ils peuvent se retrouver au même endroit avec des corps qui ont l'air de se ressembler de loin, mais qui ne vivront pas du tout la même façon et qui ne vivront pas leur corps sur le même mode, qui peuvent le vivre sur un mode très malheureux ou très gêné ou très honteux, alors que d'autres qui sont beaucoup plus habitués vont le vivre différemment. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça s'est inscrit dans des lieux, c'est-à-dire plage. On s'est habitué à dire corps d'été, plage.
Ouais.
C'est toute une histoire, ça aussi, de le construire comme un lieu idéal de ce que devraient être les corps d'été quand on pense à eux.
Ouais, on va y revenir avec ces luttes sociales qui ont aussi dessiné ces lieux. J'ai fait un lapsus récemment en évoquant votre livre, Christophe Granger. Ça s'appelle donc La saison des apparences. Et j'avais, en parlant à quelqu'un de ce bouquin, j'ai dit la saison des appartenances. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose de ça, en fait. On parle aussi d'appartenance sociale quand on parle du corps social.
C'est très... Alors, je n'ai pas analysé le lapsus, mais c'est très intéressant sur ce que ça dit, parce qu'on finit par croire et par imaginer que la saison estivale, puisqu'elle nous réduit ou nous résume à nos corps, abolirait tout le reste. Abolirait les appartenances, justement, des appartements sociaux, les appartements... Et en réalité, ce n'est pas le cas du tout. Vraiment, ce n'est pas le cas du tout. Le fait... moi, je viens d'une famille où on allait peu en vacances. Le fait de vivre la plage est quelque chose de très différent des copains de classe avec lesquels on discute quand on... Et en fait, il y a une forme de découpage qui est très difficile à atteindre parce que tout est fait pour qu'on le voit plus.
Oui, bien sûr.
Tout est fait pour qu'on le voit pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas. Voilà.
Non,
et des appartenances, moi je suis complètement d'accord, il faut aller les chercher à un endroit différent, parce que tout se brouille et tout se redistribue, mais ça ne veut pas dire que ça disparaît.
Exactement. Voilà. Margot Cassan, dans un article que vous signez dans Philosophie Magazine, vous écrivez « Le corps devient un espace d'identité, une ZAD », j'aime bien cette expression, zone à défendre, et vous dites que ce corps puisse nous appartenir constitue une rupture épistémologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette notion?
Bah oui, bien sûr, aujourd'hui on dit « mon corps m'appartient ». Mais ça, on peut le dire que depuis les années 60-70. Avant, déjà, pendant très longtemps, dans les sociétés occidentales même, le corps, il appartenait à l'Église. Donc c'est aussi pour ça que le bronzage, on n'y pensait pas du tout, parce que transformer le corps et la peau que Dieu nous avait donnée, c'était considéré comme blasphématoire. Donc il faut déjà qu'il y ait une sécularisation de la société pour qu'une transformation du corps soit possible. Ensuite, avec l'ère industrielle, le corps, c'était le corps ouvrier, c'était un corps qui appartenait à l'usine, dont le destin était complètement entre les mains d'autres, d'institutions, etc. Et aujourd'hui, on dit, le corps m'appartient, c'est déjà une conquête. Il faut voir si c'est vrai, parce que le corps, maintenant, après l'église, après l'usine, est devenu un corps capital. Le corps,
c'est
le sien.
Et oui, on parle de capital beauté, souvent, d'ailleurs. Cette expression revient en permanence.
Mais c'est une forme de bien immobilier. Dans une société, justement, des apparences, il faut pouvoir l'exposer aux autres. Il envoie un signal, il nous permet d'accéder à certains métiers, à certains contenus, etc. Et donc, on va surinvestir le corps émotionnellement, mais aussi financièrement, en dépensant dans des salles de sport, en se payant des crèmes, etc. Donc, même aujourd'hui, l'idée que le corps nous appartienne vraiment, c'est pas si évident.
C'est pas si évident.
Eva Rock. grand bien vous fasse sur France Inter.
Je sais pas toi, mais moi, je n'ai plus envie d'attendre. Attendre de perdre 10 kilos, attendre de rentrer dans un maillot parfait, attendre le corps de l'été, le fameux summer body. Parce que les étés, eux, ils ne nous attendent pas. Ils passent et ils ne sont pas illimités. Alors cet été, j'ai décidé de profiter, de rire, de me baigner, de vivre, de jouer avec mes enfants. Pas dans 5 kilos, pas l'année prochaine, mais maintenant. Parce que je n'ai pas envie que mes complexes volent mes souvenirs. Et toi, tu viens avec nous ?
Summer beauté, tant pis, tu sais quoi ? Summer beauté, je passerai l'été sans toi.
Extrait du compte Instagram de Mélanie Collat, suivi de la chanson interprétée par Elena, Summer Body. Que raconte de nous et de notre société ces corps d'été ? C'est la question que nous nous posons ce matin, en présence de la philosophe et autrice Margot Cassan et de l'historien Christophe Granger. Christophe Granger, c'est assez étonnant de voir à quel point ce terme de Summer Body, corps d'été, donc en français, est devenu un concept à part entière.
Oui, absolument. Moi, c'est quelque chose qui me frappe. Quand j'avais commencé à travailler dessus, j'avais du mal à le faire passer comme étant un objet sur lequel on peut travailler, où il fallait passer du temps à expliquer, du temps à montrer qu'il y avait un intérêt. Et aujourd'hui, anglicisé, on s'est habitué à voir l'objet immédiatement et à lui trouver une signification dans nos sociétés. Ce qui est à la fois très bien parce que ça facilite le travail d'explication, mais qui pose un certain nombre, à mon avis, qui pose un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire qu'on a focalisé sur les corps et le rapport qu'on peut avoir à l'apparence, alors qu'en réalité, il faut arriver à déplier, alors c'est peut-être l'historien, mais déplier, à comprendre, mais pourquoi il y a un moment dans l'année où on devient corps, où on devient plus spécifiquement corps que le reste du temps.
Oui, parce que c'est pas si évident que ça soit en été, on pourrait dire pourquoi ça n'arrive pas en hiver, ce repos du corps qu'on recherche.
Et biologiquement, on est des animaux, ça devrait être l'hiver. Mmh. L'hibernation, c'est l'hiver. Et les sociétés humaines, et c'est là où on parle de construction sociale, les sociétés humaines ont glissé vers l'été. Et on s'est habitué au fait qu'il fait chaud, donc j'ai besoin de me reposer. Ainsi. Biologiquement, non, c'est pas le cas. C'est l'hiver qu'on se repose, les organismes ont besoin de se reposer. Et on a une espèce d'objet auquel on ne réfléchit plus, sous les yeux, tout le temps, tous les ans, qui est une construction à laquelle on s'est habitué. Et ce qu'on disait tout à l'heure, à laquelle on s'est habitué, il faut aller très loin, c'est-à-dire, on s'y est pas habitué seulement sur les kilos, ou ainsi de suite, on s'y est habitué sur les sensations, ce que ça fait de s'exposer le premier soleil, de s'exposer les mollets, de s'exposer... Et c'est très très sensuel, et pas seulement des injonctions, parce que sinon on le ferait pas.
Margot Cassan ?
Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce fantasme en hiver, que ce soit une période où on peut s'oublier quand on est mal dans sa peau. Il y a une chanson de Jean-Louis Murat que j'adore où il dit « J'aimerais pouvoir me perdre de vue ». Et en fait, on a l'idée qu'en hiver, on peut se camoufler, on peut se perdre de vue et que d'un coup, en été, on est obligé de se retrouver avec son corps. Et donc, c'est seulement maintenant qu'il faut apprendre à l'aimer. Après, le concept de summer body ne va pas du tout dans ce sens-là, puisque le summer body, c'est un corps pour les autres, c'est pas un corps pour soi.
C'est le corps que je donne à voir aux autres,
c'est
en fait.
C'est un corps qu'on va discipliner, avec l'idée que s'il n'est pas modifié, il n'est pas acceptable au regard des autres sur la plage, par exemple.
Mais alors, c'est étonnant parce que ce matin, dans le journal La Croix, il y a une double page sur cette histoire de summer body. Le titre de l'article est « Dangereuse injonction à la perfection ». Et alors, on apprend que ce corps d'été qui doit être parfait, comme l'énoncent les magazines féminins, les réseaux sociaux, font des dégâts, notamment auprès des ados, filles et garçons, avec notamment des troubles alimentaires graves. Et dans l'article, on date en fait la création de ce mot. Ce serait une publicité qui avait été diffusée dans la presse américaine en 1961. Et je voudrais juste vous lire la publicité parce que c'est exactement ce que vous venez de dire, Margot Cassan. La pub vante poitrine haute et ferme, taille fine et ferme, hanches fines et gracieuses, un corps prêt pour le bikini, un summer body. C'est ça en fait, c'est ce qu'on doit donner aux autres en fait. En termes de regard.
C'est ça, c'est un corps sculpté, c'est un corps travaillé. À aucun moment on parle du corps comme un corps éprouvé dans ce que vous lisez. Oui. Le corps, c'est simplement une plastique. Alors que le corps, c'est pas ça. Le corps, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. Le corps, c'est une couleur, c'est une odeur. C'est de la transpiration, c'est ça aussi le corps. Oui. Et dans l'idée de summer body, c'est comme s'il n'y avait que l'image qui était projetée. Donc c'est un corps qu'on n'éprouve plus du tout. Donc c'est paradoxalement extrêmement désincarné comme vision.
Et quel regard vous avez sur ce mouvement du body positivisme, comme on l'a entendu avec Mélanie Collat, qui en parle beaucoup sur son compte Instagram?
J'ai l'impression que ça va dans le bon sens. Après, le simple fait qu'on ait besoin d'inventer un terme montre que la société, justement, n'est pas du tout elle-même body positive. Et parce que, justement, c'est une société qui ne perçoit le corps qu'à travers un seul des sens, qui est celui du regard. Mmh. Alors que pour moi, une société body positive, ce serait une société qui est capable d'être aveugle, en fait.
Sans regard sur l'autre.
Sans regard obsédant, sans regard qui s'arrête, où on peut accepter son corps en dehors, en tout cas, de simplement en se disant, c'est aussi le toucher, il y a aussi autre chose qui se joue. À mon avis, cette espèce de monopole du regard, il ne va pas dans le sens du vrai body positivisme, où le but, c'est simplement de se dire quand est-ce qu'on va se foutre la paix.
Oui, exactement. Christophe Granger, est-ce que vous pensez que le corps d'été est genré, d'ailleurs?
Moins, enfin, en tout cas, ça dépend de quoi on parle, mais il a été construit comme un apanage féminin, c'est-à-dire non seulement parce que la saison estivale était construite à l'échelle des sociétés comme le moment des femmes, c'est-à-dire le moment où on met à l'écart tous les grands enjeux de société, le travail, la fortune, la réussite, et ainsi de suite, et on a construit un temps estival qui correspondait au moment des vacances et qui était pensé comme étant féminin. On disait aux femmes, c'est pas seulement vos vacances, c'est d'abord les vacances de votre mari ou de vos enfants, et c'est à vous de vous en occuper. Donc en fait, on l'a genre et on a assigné une forme de définition de la féminité absolue sur les corps. Et on a un peu foutu la paix aux hommes jusqu'aux années 60-70 avec ça, et même un peu au-delà. Mais c'était pensé comme l'ultra-féminisation, c'est-à-dire la définition de la femme à travers son corps, à travers un corps. Non seulement un corps qui doit être, et ça c'est de plus en plus sévère et de plus en plus drastique au fil du temps, mais aussi par le fait qu'on le résume à un corps. Et ce que disait Margot, c'est-à-dire qu'on voit, c'est-à-dire quelque chose qui est fait pour être vu, une apparence.
Une apparence.
Et ça, ça, c'est profondément genré. C'est-à-dire l'homme du côté des performances et la femme du côté des apparences. Et alors, ça a changé, mais on s'est habitué à ça.
Ouais. L'entre-deux-guerres va être déterminant pour comprendre en fait ce qui se passe et ce qui se joue dans ces corps d'été.
Complètement, et pour des raisons. Alors, moi, c'est ce que. Alors, quand j'ai commencé à travailler, en fait, on découvre les sujets en découvrant des matériaux.
Oui.
Et en fait, j'étais tombé sur quelque chose que je n'avais pas du tout prévu. Moi, j'étais parti, alors l'invention du bronzage, plutôt les années 20, des choses qu'on oubliait, mais le fait de s'allonger en public, de se dénuder et de s'allonger en public, qui est très bizarre dans une société, il faut imaginer ce que ça peut représenter. Et puis, je suis tombé sur les résistances à ça, c'est-à-dire toutes les bagarres, toutes les luttes, toutes il y avait des commandos qui étaient organisés, notamment par l'Église à l'époque, qui luttaient manu militari contre les corps, que nous on appellerait des corps d'été, c'est-à-dire dénudés, qui se font bronzer, et qui ont non seulement lutté contre ça, au nom d'une morale qui était plutôt, alors, profondément catholique, mais qui était plutôt du côté du... En fait, l'été, on ne doit pas s'abstraire des grandes appartenances, justement. C'est-à-dire, un homme, c'est un chef de famille. Et c'est un chef de famille aussi sur la plage. Une femme, c'est une mère de famille. C'est pas un corps d'été. Et donc, il luttait beaucoup contre ça, et... Alors après, on a des affinités. Moi, les bagarres, je les ai trouvées passionnantes à étudier, mais c'est pas le bout du bout. C'est-à-dire que derrière les bagarres, il y a des pressions sur les maires et il y a des arrêtés municipaux. Et là, on a un matériau qui dit, il y en a des centaines d'arrêtés municipaux entre le milieu des années 20 et le milieu des années 30, qui vont prescrire ce qu'on peut faire avec son corps sur cet espace-là, plage. Alors, qui définissent d'abord ce que c'est que la plage, qui appartient à la commune, et qui définissent qu'est-ce qu'on peut montrer comme partie du corps.
Qu'est-ce qu'on peut montrer, c'est ça.
Jusqu'où le maillot de bain doit être couvrant. Mais aussi des choses, ne pas se déshabiller ou se rhabiller sur la plage, ne pas marcher en maillot de bain. Ça, je trouvais ça fascinant. Il faut mettre un peignoir, mais on ne marche pas. C'est-à-dire, la position horizontale en maillot de bain, très bien. Verticale, non. Il y a des maires qui sont très tatillons avec ça.
Margot Cachon.
Aujourd'hui, il y a la même chose avec le topless. Les arrêtés municipaux ont un peu évolué, mais ils vont exactement dans le même sens. Vous avez le droit d'être topless si vous êtes allongé, mais vous n'avez pas le droit de jouer au volleyball ou d'aller marcher.
Exactement.
Vous baignez les seins nus parce qu'on considère que vos seins remuent. Et donc, c'est scandaleux.
Et ça continue parce que c'était il y a quelques jours. Aujourd'hui, c'est la cigarette qu'on interdit sur les plages. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce lieu aussi est régi, codifié par ces arrêtés municipaux qui viennent un peu restreindre cette liberté dont on parlait en début d'émission, finalement.
Qui cadre... Alors, il y a plein de façons de le prendre, mais c'est toujours pareil. Soit on se dit que c'est des règlements, il faut voir s'ils sont appliqués, mais en fait, personne ne les lit. Ils ne sont pas faits pour être lus. Personne ne rentre sur la plage. Les gens peuvent appeler. Peut-être il y a des gens qui lisent l'arrêté avant d'entrer.
Et qui appellent ensuite pour
voilà.
protester.
Mais sinon, on ne les lit pas. Mais en revanche, ce que ça fait, c'est que ça cadre, ça dit dans notre société, ceci est un lieu à part, et ça dit, ceci est un corps à part. Et ça, c'est extrêmement important, quand même.
Et ce à part que vous venez de prononcer, on le ressent avec le bronzage dont vous parlez, Margot Cassan. Je voudrais vous citer Vous dites, dans la génération de mes parents, le hâle est surtout un désir de signature. Avec le bronzage, l'identité première s'efface au profit d'une identité acquise et identifiée. Les frères Bogdanov, Thierry Ardisson ou encore des Rastignac du Soleil, si vous les regardez, ils apportent tous leur peau violine comme un parfum de reconnaissance pour ceux à qui le soleil donnera leur chance, comme un passeport pour le succès. J'aime beaucoup ce passage parce qu'en fait, on comprend tout de ce que vous voulez dire, à savoir cette idée de parfum, c'est aussi quelque chose de l'identité, et de cette identité qu'on veut se donner. Le bronzage, c'est ça en fait, dans la façon dont vous l'abordez.
Ça m'a marqué de voir en philosophie qu'on considère que le corps est un sujet accessoire, un sujet futile, alors qu'en fait, il suffit de regarder la façon dont les gens traitent leur corps pour les comprendre en tant qu'individus et aussi pour les comprendre en tant qu'êtres sociaux. Vous comprenez leur rage, vous comprenez d'où ils viennent, vous comprenez quelles sont leurs ambitions. Et les ambitions, justement, ces personnages, je les appelle les Rastignac du Soleil, en référence au personnage de Balzac, Rastignac, qui arrive à Paris pour conquérir Paris. Et on sait que quand on arrive à Paris, le corps, c'est tout, c'est la clé du pouvoir. Et dans les années 80, ces Rastignac du Soleil que vous avez cités ont utilisé le bronzage comme un désir de signature, c'est-à-dire en se disant, si je suis bronzée, je vais renvoyer un signal de bonne mine, un signal de bonne santé, un signal de réussite, de prospérité. Et donc, je vais pouvoir accéder à une forme de clan à laquelle ma pâleur m'excluait, d'une certaine façon.
Mais alors vos parents, ils vont très loin, parce que ce désir de soleil, ce désir de bronzage, ça passe par une cabine UV que vous avez à domicile, ce qui n'était quand même pas le cas dans tous les ménages dans les années 70-80. Ils vont au Maroc régulièrement, ils vont même y vivre à un moment donné, parce qu'ils se rapprochent du soleil. Est-ce qu'avec le recul et après avoir écrit ce livre, vous arrivez à comprendre pourquoi il y a ce désir absolu de soleil et de bronzage?
Je pense qu'il y a une forme de lucidité. En fait, ça correspond à une idéologie des années 80, une idéologie de liberté, une idéologie où l'idée du risque aussi et de la responsabilité... l'idée du risque était valorisée et la responsabilité un peu moins présente. C'est des gens qui avaient une rage, mais aussi une rage positive, un élan, qui croyaient dans leur destin personnel. La fameuse phrase « quand on veut, on peut ». Et le bronzage, c'est symptomatique de ça. C'est en fait « je peux changer de peau
».
Je peux changer de nature, je peux changer de corps, je peux changer de classe sociale, tout ça, ça participe d'un même élan. Donc oui, je le comprends à cet égard. Et de toute façon, même encore aujourd'hui, c'est la même chose. Si vous regardez les nouvelles peaux, les peaux des années 2000, si vous voulez comprendre d'où quelqu'un part et où il va, vous regardez s'il est scarifié, s'il est tatoué, s'il se dessine sur la peau, etc.
Oui, c'est ça, la peau devient un marqueur social, c'est ce que vous dites. Parce que vous parlez, toujours dans l'article que vous avez signé pour Philosophie Magazine, vous parlez des tatouages, du bronzage, des piercings. Tout ça participe en fait à construire notre récit individuel aussi. Et c'est une transformation. Mais alors cette transformation, parfois, elle peut aller très loin. Parce que vous dites, au fond, on peut aller jusqu'au transhumanisme, finalement, dans cette transformation ultime.
Je le vois comme l'idée que le corps n'est pas naturel. Parce que quand on parle des femmes, on va dire « mais celle-là, elle fait de la chirurgie, celle-là, elle est maquillée, etc. Oh, c'est pas une femme naturelle. » Mais ça veut rien dire, en fait. Tous nos corps sont transformés. Quand vous allez à la salle de sport, au bout de 3 mois, vous aurez un corps transformé.
Nos cicatrices, tout ça.
Est-ce que pour autant, vous n'avez pas un corps naturel? Pour moi, ça veut rien dire. Donc j'ai essayé de réfléchir à ce qui faisait le point de rupture entre des transformations acceptées, donc j'en sais rien, le bronzage justement ce serait la première étape et le transhumanisme la dernière étape, et entre vous avez les piercings, le bronzage, les teintes des cheveux, le sport, la façon dont vous vous alimentez, etc. Et je dirais que la rupture, elle est dans l'intention. Est-ce que vous cherchez à vous réparer ou est-ce que vous cherchez à vous optimiser,
à
changer de nature? Le transhumanisme, c'est là la limite, c'est quand vous cherchez à changer de nature et à acquérir des compétences qui ne sont pas des compétences proprement humaines. Et là, le comble de l'hubris, ce serait le rêve d'éternité, ce jeunisme éternel, le refus de la mort, etc.
Christophe Granger, quel est le regard de l'historien sur ce bronzage notamment?
Alors, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui apparaissent et qui sont sur lesquelles je suis complètement d'accord. La principale transformation, parce que le bronzage, quand il se met en place, c'est aussi une forme de signature, mais
bien
une
sûr.
Signature sociale qui marche dans deux directions. Parce qu'en fait, dans les années 30, par exemple, il faut pas être bronzé, il faut être bronzé au retour des vacances, mais pas après. Le reste de l'année, il faut pas. Il faut enlever, il faut.
Et souvent, c'est le travailleur
peau,
plutôt qui est bronzé.
Et donc, la distinction sociale qui s'opère en disant, puisque les autres ne savent pas le faire, puisqu'ils ont qu'à le feutrer leur chair et ainsi de suite, la capacité à aller vers une forme de distinction, mais de distinction qui passe par une forme d'ensauvagement. Ah, bah, ce serait reconquérir une forme d'état naturel que d'exposer son corps au soleil, aux éléments. Tout ce moment-là extrêmement, extrêmement fort, extrêmement puissant, qui a transformé aussi la définition de ce que sont les corps. Mais avec cette idée aussi qu'on oublie, ça ne concerne pas tout le monde, et puis ça suppose une habileté qui procède de nos socialisations, une habileté à varier dans l'année, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas.
Bien sûr.
On mettait toujours la distinction avec le corps du paysan, lui, il ne sait pas. Le reste de l'année, il est pareil. Il ne sait pas s'habiller à la plage, il ne sait pas. C'est de la caricature, peu importe, mais il y a cette forme de distanciation avec ceux qui ne savent pas varier, ceux qui ne savent pas adopter une conduite corporelle, une excise corporelle, une apparence qui appartient à un moment spécifique dans l'année. Et on en revient à ça, c'est-à-dire comment on travaille avec ça, comment on joue avec ça et comment ça devient un marqueur social.
France Inter.
Je vais me faire rapatrier par ordre d'assistance, moi ça va pas faire un flic. T'emballes pas, tu viens juste d'arriver.
Grand bien vous fasse.
Mais je m'emballe pas, je peux pas supporter le soleil. Hein. Ce que j'aime, c'est le climat un peu humide, tu vois, la Normandie, l'heure.
Eva Rock.
Extrait des bronzés, difficile de passer à côté. Avec l'historien Christophe Granger et la philosophe Margot Cassan, on scrute nos corps d'été. Margot Cassan, on peut être philosophe et citer Les Bronzés, le film de Patrice Lecomte, vous le faites dans votre livre. C'est quoi, c'est le comble de l'érotisme, en fait, le bronzage à ce moment-là, en fait?
Oui, c'est vraiment... Là, c'est un film de 78, donc c'est Si Sex and Sense, on est en plein dedans, c'est la même année. Et Michel Blanc, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça traduit vraiment la façon dont on considérait le bronzage dans ces années-là. Michel Blanc, qui, lui, est pâle et met un peignoir sur la plage et refuse de bronzer, en fait, c'est le plouc du film. C'est intéressant, parce que si on refaisait ce film aujourd'hui, peut-être que ce serait lui le cool.
Peut-être que ce serait l'inverse, Oui, parce que, alors, c'est ce que vous racontez dans votre livre, et je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus. Votre maman, elle a un mélanome. Elle va avoir un mélanome, un cancer de la peau. Donc, on voit bien que le soleil devient un danger. Et en fait, elle va se soigner, mais elle va revenir au soleil. Et elle se remet encore aujourd'hui au soleil. Comment vous percevez ça? Parce qu'on connaît les dangers du soleil aujourd'hui. Et on a l'impression que toutes les politiques de santé publique, tous les messages qu'on peut entendre là-dessus, en fait, on n'arrive pas à faire comprendre aux gens le danger.
Je l'explique parce que le bronzage et la beauté en général, en fait, n'a rien de cosmétique. Ça touche des choses qui sont vraiment profondes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Sur l'identité.
Ça raconte une identité, ça raconte une trajectoire, des conquêtes, etc. Donc parfois, on préfère métaphoriquement mourir que de retrouver le corps qu'on avait avant. Ce corps-là, il raconte une réussite, il raconte une fierté, donc on n'a pas envie de le quitter. Il y a ça aussi, après, dans une moindre mesure, il peut y avoir un refus un peu libertaire de ce principe. On dit, oh, ça va, j'ai le droit de fumer, c'est bon, laissez-moi tranquille. Ça participe de la même logique. Je pense que les gens des années 80 sont vraiment là-dedans. Et même aujourd'hui, pourquoi il y a une nostalgie si grande pour les années 80? C'est parce que parfois, on se dit, mais fichez-moi la paix.
Oui, on a l'impression que c'était l'époque de la grande liberté, quoi. C'est ça, oui. Christophe Granger, vous me disiez hors micro que vous avez trouvé des premières campagnes pour alerter des dangers du soleil, c'était quoi dans les années 30, c'est ça?
Mais c'est même, j'y réfléchis, parce qu'en fait, le corps médical s'intéresse au bronzage très tôt, à la fois pour pas perdre la main sur les corps, justement, sur ce qu'on fait de nos corps en société et comment on construit ça.
Et puis c'était la tuberculose aussi, où il fallait faire les bains de soleil pour
l'exposition,
se guérir.
Donc au moment où ça devient esthétique, au moment où ça devient mondain, le bain de soleil et le bronzage, les médecins essayent de l'accompagner d'un discours de cadrage. Et assez rapidement, ils se rendent compte que le discours de cadrage ne suffit pas. Alors, il y a des tests de médecine, mais des années 30, fascinantes, où un médecin va au soleil avec un petit miroir et regarde sa peau, comment elle est cramée, qu'est-ce que ça fait. Et la question du cancer apparaît à ce moment-là, dans les années 30. Et les médecins font un peu machine arrière. C'est déjà presque trop tard, ça s'est joué en 3-4 années, c'est déjà presque trop tard. Mais ils mettent en avant des campagnes de vigilance, de prudence, en disant c'est très bien d'aller au soleil, mais il faut faire attention à ce que vous faites à votre peau. Ils y vont, ils disent un tiers de la clientèle des médecins de ville, c'est des pathologies liées à l'exposition de l'été, qu'on récupère l'hiver, c'est une catastrophe, donc il faut faire attention. Après, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on n'en a pas fait grand-chose. C'est-à-dire que la façon dont, et il y a plusieurs explications, mais la façon dont le discours médical s'est emparé de la question, puis ensuite l'a laissé filer et n'a jamais pu le récupérer, est très intéressante. Et ce qu'on disait avant, c'est ça se fait pas comme ça, un corps d'été. C'est-à-dire, ça se fait pas comme ça, mais ça se défait pas comme ça. On n'en sort pas comme on veut. Il y a une forme de socialisation qui prend du temps. Et on n'appuie pas sur un bouton, tiens, bah, je vais sortir de tout le modèle que j'ai acquis en me disant, je vais me faire bronzer ou pas. Ça marche pas comme ça. Et d'autant plus que ça marche pas comme ça. Ça marche pas pour ceux qui s'y retrouvaient, mais ça marche pas non plus pour ceux qui ont couru après toute leur vie en se disant, bah, pourquoi moi je bronze pas, et ainsi de suite. Ça va pas les empêcher de continuer à y aller. Ce que je remarque, il faudrait le faire plus finement. Moi, je l'ai pas fait, mais c'est les effets de génération. C'est-à-dire, oui. De la même manière que le sein nu a pas la même signification dans les années 70 et aujourd'hui, le bronzage a plus la même signification. Donc, de le voir rester, c'est pas la même chose que de le mettre à un endroit différent quand on a, je sais pas, 18 ans ou 20 ans aujourd'hui. Et mais le discours médical va pas beaucoup plus loin que ça.
Margot Carson.
Mais je vous parlais de discours, c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression que ça a été étouffé, ces premières recherches contre le cancer dans les années 30, parce que justement, il y a une concurrence des discours et que face au discours médical, il y a des discours plus séduisants. Ah, je pense à Eugène Schueller qui fonde L'Oréal, en partie grâce, et en fait, qui fait fortune grâce à la mode du bronzage, parce qu'il invente l'ambre solaire. Et même dans les discours médicaux, il y a des discours hétérodoxes qui sont plus séduisants. Justement, tout le discours du sanatorium qui disent, bah, en fait, contre la variole, la tuberculose, le soleil, il est tellement puissant qu'il est bactéricide et donc il suffit, en Europe, à ce moment-là, on est désemparé. Donc quand quelqu'un vous dit, en fait, il suffit de mettre les gens nus ou en petite culotte exposés au soleil pour que le soleil brûle leurs bactéries, c'est un tel soulagement que ce discours-là, il gagne. Je pense qu'il y a de ça aussi.
Mais d'ailleurs, ça me fait penser, vous revenez sur l'expression « bain de soleil ». Vous pouvez nous expliquer ce que vous racontez dans le livre sur l'expression « bain de soleil » ?
Bah, le bain de soleil, il y a un truc qui me marque, l'analogie physique déjà entre le transat et la civière. Enfin, là, si on parle de médecine, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un principe de sacrifice, de mise à mort. Et quand vous regardez à quoi ressemble un transat et à quoi ressemble une civière, en fait, c'est deux choses assez proches. Et de la même façon, entre l'UV et le cercueil. C'est pour ça que s'intéresser aux mots et aux images, moi, je trouve que ça mène toujours à des choses intéressantes.
Je voulais vous signaler 60 millions de consommateurs la revue qui vient de sortir. C'est le numéro de juillet et août. Et donc, en couverture, c'est « Bronzer sans danger », un essai sur les meilleures crèmes solaires. Et en fait, j'ai été interpellée par ce titre parce que je me suis dit, à une époque où on essaie de faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas s'exposer au soleil, au fond, on leur dit « Bronzer sans danger ». Donc ça veut dire, quelque part, c'est « Allez-y, vous pouvez... » Il y a quand même une solution de pouvoir continuer à y aller, quoi.
Il n'y a pas le point d'interrogation, oui. Oui, mais ça fonctionne aussi parce que les modèles de... Enfin, c'est pareil, les stratifications sociales font que la signification de la pratique n'est pas la même dans tous les échelons. On parlait tout à l'heure de summer body, il y a des interprétations concurrentes aussi de ce que ça veut dire. Et là, pour le bronzage, effectivement, et c'est pas la même chose d'être confronté à la maladie en sachant que... Moi, rétrospectivement, je me dis, ceux qui s'allongeaient sur la plage ou celles et ceux dans les années 80, c'est des pratiques complètement incompréhensibles aujourd'hui de passer. Moi, je me souviens d'être homard et d'être. Et ça suffit jamais, mais vraiment. Et la douleur suffit pas à dire ça suffit pas, ça suffit. La maladie suffit pas. Il y a une forme de. Et je pense que ça prend du temps et que ça se situe. Alors là, 60 millions, c'est pas le même endroit qu'un magazine féminin, évidemment. Mais ça nous dit quelque chose aussi de l'ambivalence des pratiques qu'on a. On n'a pas tous les mêmes pratiques et le même rapport. Et aujourd'hui, ce serait très difficile et très bizarre de dire « ne bronzez pas
».
Quel
sûr.
Sens ça pourrait avoir ?
Margot Cassin ?
Non, il y a deux choses qui me frappent parce que j'ai le magazine dans les mains. Bah déjà, 60 millions de consommateurs, c'est pas vraiment un magazine, c'est consommateur.
Oui,
donc juste en dessous de bronzer sans danger, ils présentent des crèmes solaires à vendre et ensuite des textiles solaires. Donc en fait, c'est juste un moyen de vendre des goodies.
Oui.
mais ce qui est vrai. Mais par contre, il y a une esthétique des années 80, une esthétique pop. C'est même cette jeune femme, la façon dont elle est montrée, ses seins qui sont évidemment mis en avant. C'est-à-dire que la bannière est coupée juste au niveau de ses seins pour faire comme une forme de push-up, on dirait un magazine des années 80.
Ouais, tout à fait. Ouais. Alors à propos de homard, je voudrais vous faire écouter un extrait. C'est une transition toute trouvée, Christophe Granger. Je voudrais vous faire écouter un extrait du film adapté du récit de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, un film réalisé par Otto Preminger et sorti en 1958.
Comment vous sentez-vous ?
Comme si je nageais dans une bassine de friture.
Vous avez l'air d'un homard.
Oh, vraiment ?
Uniquement par paresse de s'enlever du soleil.
Si vous m'adoriez réellement, vous auriez enlevé le soleil.
Je vous adore réellement. Ben, c'est assez curieux, mais vous êtes très appétissante, même sans maquillage.
Oui. Ah, cette fois, j'ai craqué.
D'où ça?
D'ici. Ah, voilà que je pèle maintenant. Je vais être hideuse.
Et attention, elle a réellement un coup de soleil.
Et oui, Margot Carson, il y a des choses qu'on n'arrive plus à entendre aujourd'hui.
Ouais, j'ai plus un rictus que des mots pour le commenter. Ouais, mais ouais. Cela dit, c'est amusant. C'est amusant aussi de voir à quel point les choses vont vite.
Et oui, et ouais. Vont très très vite les choses. Je voudrais juste vous poser une question à tous les deux, parce que dans ce sujet des corps d'été, il me semble que la notion de temps, elle est déterminante, mais à plusieurs titres, parce que ce dévoilement, cette préoccupation du corps, elle est limitée dans le temps. Vous le disiez, Christophe Granger, hein, c'est la saison d'été. Hein. Et puis en même temps, il s'agit aussi de réfréner ce temps, à savoir que ces transformations du corps, elles visent aussi à retarder l'effet du vieillissement, notamment. Vous en parlez beaucoup, Margot, de ce temps sur notre corps. Vous écrivez à propos de votre mère, le bronzage fonctionnait comme un antidote à la rouille. C'est cette notion du temps aussi qui est au cœur de cette réflexion et au cœur de ces corps d'été.
Ouais, je pense qu'il y a, il y a un jeunisme dans la façon dont on envisage les corps d'été. D'ailleurs, si vous faites juste l'exercice de fermer les yeux et de penser à un corps d'été, vous ne penserez pas spontanément à une personne âgée. Et sur la plage, ils sont souvent invisibilisés, sauf dans les villages naturistes, parce qu'il n'y a que des anciens 68-arts, où là, il y a une forme de revanche des vieux qui est assez heureuse. Mais c'est le cas de tous les corps différents. Et c'est pareil, Bronzé sans danger, là, 60 millions de consommateurs, ils ont choisi une femme qui doit avoir 32 ans, et pas une femme qui en a 80.
Encore cette apparence dont on parle depuis ce matin, Christophe Granger, hein, c'est
oui,
ça.
Oui, complètement. Ouais. Moi, j'avais travaillé là-dessus, sur la façon dont cette chose qui s'invente aussi, des reporters et des reportrices de plage, c'est-à-dire on les envoie sur un terrain bizarre où il se passe des choses, et on voit en une dizaine d'années, même pas 5 ans, sortir du cadre plein de corps qui correspondent pas à la définition et matériellement se fixer sur à peu près ce qu'on a sous les yeux là. Et oui, je suis complètement d'accord sur ce point de discussion autour de l'âge. Le temps, en fait, juste pour tirer un fil qu'on n'a pas tiré, mais qui est assez abyssal, surtout aujourd'hui, quand on discute par exemple du temps des vacances, là, on parle des vacances des enfants. Mais c'est lié à ça, c'est-à-dire le moment où la société se dit, c'est quoi les grands repères sociaux qu'on réinvente avec je sais pas le rite de la rentrée par exemple, c'est la rentrée scolaire, tout le monde parle de ça, et en fait on s'est quand même doté d'un moment dans l'année où on accepte, Marcel Mauss avait travaillé là-dessus dans les sociétés esquimaux sur les variations, il y a un moment dans l'année où ils sont pas pareils, ils changent leur lieu d'habitation, ils changent leur façon de se parler, ils changent leur façon de manger, et en fait on reproduit une forme de temps, de temporalité très précise qui est dans l'année identifié et qu'on apprend très jeune. Et on l'apprend pas simplement parce qu'on voit que c'est sympa d'être en vacances, mais on l'apprend parce que c'est investi de tout un tas d'injonctions, tout un tas d'attendus autour de ce qu'on doit devenir pendant ce moment-là. Et très vite, ça s'est fixé sur les corps. Et ça, c'est intéressant. Le temps est complètement lié au corps. Il est pénétré, il est aussi transformé. C'est-à-dire que, juste un mot, le fait que le bronzage soit sorti de la saison estivale et devienne un temps, c'est très intéressant à étudier en soi. Mais ça ne veut pas dire que la saison a disparu pour autant. Ça veut dire que ce qu'on fait avec nos corps reconstruit des espaces de nos sociétés. Nos corps ont du pouvoir de ce point de vue-là. Et ça, c'est intéressant.
Ouais. Eva Rock.
Bonjour.
Grand bien vous fasse.
Une demi-heure ensemble. Une belle demi-heure. Alors, il faut ça chaud. Allez, on y va. On commence par l'échauffement. Allez, on court sur place.
Sur France Inter.
Tranquillement. Souplement, en respirant et en soufflant.
Et là, je suis en train de vivre un grand moment de solitude, enfin que Christophe Granger partage avec moi, parce que Margot Casson, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez ce qu'on vient d'entendre? Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous avez le droit de répondre non, vraiment, ce serait tout à fait logique.
Pas la ref, comme on dit.
C'est une émission de télé, c'était dans les années 80, c'était le dimanche matin, on posait nos meubles et on prenait un cours de gym avec Véronique et Davina. Vous voyez, les années 80, avec les juste au corps, fluo, etc. Mais vous êtes beaucoup trop jeune. Voilà, donc vous n'avez pas connu cette émission, Christophe Granger, vous l'avez connue.
Je l'ai connue, je le passe aux étudiants qui ne connaissent pas du tout.
C'est
et
vrai.
Qui sont très étonnés par l'endurance aussi, parce qu'en fait, quand c'est un exercice à refaire aujourd'hui.
Ouais.
Ah, c'est pas si marrant que ça. Ouais.
Pourquoi vous le passez à vos étudiants, c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet-là, précisément?
Les transformations du travail corporel et le déplacement des normes. Je l'ai fait travailler, je finis par le body positive. Le fait que les normes corporelles n'ont pas toujours existé de la même façon et qu'elles ne sont pas simplement des discours ou des vues qui passeraient comme ça, mais que ça s'est déposé dans des pratiques très concrètes. Là, le fitness, enfin le gym tonique, avec... des femmes dont on se souvient, avec des maillots fluos dont on se souvient. Des, voilà.
Il ressemble à quoi ce corps dans les années 80? Comment vous pourriez le
définir? C'était
le
moment de la forme, c'est-à-dire le moment où, dans les deux sens, c'est-à-dire un corps en santé, en bonne santé, qui bouge tout le temps, qui est tout le temps en mouvement, et en même temps très filiforme. Alors ça venait des États-Unis avec ce modèle de la réussite. Très années 80 en fait, au fond. Je pense même me souvenir qu'il y a une émission où ils invitent Bernard Tapie, c'est complètement cohérent en fait, ça dit quelque chose de l'incarnation, l'incarnation d'un modèle libéral du corps qui s'incarne dans quelque chose qui est profondément dépolitisé, qui est fait de l'exercice. Et c'est marrant, c'est fluo, c'est machin. Mais c'est,
et ils étaient bronzés.
Et ils étaient bronzés.
Elles avaient des corps bronzés, parce que Margot Cassan, il faudra que vous alliez voir le générique de fin, où on suit Véronique et Davina dans la douche, et elles sont seins nus, en train de se... Enfin, elles sont totalement nues, mais on ne voit que les seins, et elles ont le corps bronzé. C'est pour ça que j'ai pensé à vous aussi, parce que c'est cette, cette apparence
des années
80.
Ce qui prouve bien qu'à ce moment-là, sport et soleil, racontaient, c'était la santé.
La santé, exactement. Le bain de soleil, c'est aussi la santé, ça, pour aller mieux. Margot Cassan, on a beaucoup parlé du passé ce matin. Si on évoquait le futur, alors peut-être que la question va vous paraître difficile, mais quelles pourraient être les problématiques liées au corps, selon vous, dans la prochaine décennie? Comment vous voyez les choses?
Bah, je pense qu'il va y avoir une radicalisation de ce qui existe aujourd'hui, justement, en matière d'image. Ce qui m'inquiète, entre guillemets, c'est ce corps qui n'en est plus un, c'est un corps désincarné. Et même quand on réfléchit au corps, c'est intéressant de se dire, même en tant que philosophe, les philosophes le font très peu, ils réfléchissent au corps comme une abstraction. Et ils oublient parfois qu'ils en ont un. D'ailleurs, ils cherchent à le cacher avec des détenues le plus sobres possible, etc. Et ils se disent pas, je peux partir à partir de « je ». Moi, je pense que la meilleure manière de lutter contre ce qui pourrait arriver, justement, si on considérait que le corps à partir de l'image, c'est de partir de soi et du corps qu'on éprouve, et de penser à partir de ça, de se dire, en fait, moi aussi, ça m'arrive d'avoir du désir, d'avoir des insomnies, d'être malade, de fumer des clopes, d'en fumer trop, aussi en tant que corps pensant. Donc je pense que c'est peut-être ça... qui permet de lutter efficacement contre le monopole de l'image.
Christophe Granger, avec le changement climatique, on pourrait imaginer que les saisons ne seront pas celles que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que l'hiver sera peut-être notre nouvel été, ce moment où les corps se reposent.
C'est une question difficile parce que ça ne se déplace pas comme ça en réalité. C'est-à-dire que quand on réfléchit, le calendrier social, le calendrier familial, le calendrier scolaire sont emboîtés depuis très longtemps. Et on parle de corps. Nos corps se sont habitués à ça. Je ne vois pas comment on appuie sur un bouton en nous apprenant maintenant, et en apprenant à nos corps, pas à nous, que c'est plus du tout le modèle sur lequel on est. Les sensations, la symbolique aussi de ce que ça veut dire d'avoir un corps grand, petit, gros, et ainsi de suite. Et en revanche, ce que je vois de très intéressant, c'est, en deux secondes, justement ça, autour du body positive, les luttes qu'il y a, par exemple le fat activism, l'idée que la mise en visibilité des corps est un lieu qui doit être investi, travaillé par des groupes qui s'entendent pas forcément, je trouve qu'il se passe des choses très intéressantes à regarder autour de ça, voilà. Mais la transformation des saisons, vraiment, il faudrait... Il faudrait très longtemps.
Ouais.
Et on a essayé.
On refera l'émission dans quelques temps, si vous voulez. Dans 10 ans, on se donne rendez-vous ici. Vous savez. Cet été, tous les jours, moi, j'aimerais qu'on termine avec ce que j'ai appelé les pépites des invités, c'est-à-dire vos coups de cœur, chers invités, qui vont nous permettre de poursuivre la réflexion sur le thème de l'émission, et en l'occurrence, aujourd'hui, nos corps d'été. Je vous donne la parole, Christophe Granger. Vous avez pensé à quoi?
Moi, j'ai pensé tout de suite à Martine à la plage, parce qu'on n'est jamais déçu. Non, je rigole, parce qu'en plus, c'est pas Martine à la plage, c'est Martine à la mer. Qui dit quelque chose sur le corps, pas simplement les nôtres. Il y a des animaux à la plage, dans Martine. Enfin bon. Et non, je pensais plutôt à un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « On allait au bord de la mer », donc avec une référence
à Jonas.
Et c'est le travail d'un photographe qui s'appelle Stéphane Gladieux, qui a bossé pendant 2 ans, il a fait le tour de toutes les plages françaises, et il a posé son appareil photo devant les gens, mais pas en les prenant sur le vif, comme pouvait faire Doano ou Brassailles dans les années 30, l'inverse. De leur dire « Venez et posez ». Et il fait des portraits posés, et donc on ne dit pas la même chose avec son corps quand on pose. Évidemment, on veut le montrer d'une certaine façon. Et il y a une forme de jeu comme ça, il faudrait les prendre tous, le bouquin est très intéressant, est très coloré, de jeu autour de qu'est-ce qui nous réunit en fait. Les corps nous réunissent beaucoup.
On mettra les références évidemment sur la page de l'émission, sur l'application Radio France. Margot Cassan, on vous laisse d'ailleurs les mots de la fin parce que vous avez pensé à un texte d'un philosophe, c'est ça?
Je voulais lire un petit texte de Nietzsche. Pourquoi? Parce que Nietzsche était bronzé, très bronzé, il adorait aller en haut des Alpes se cramer au soleil. Et il disait des philosophes qui devaient s'intéresser justement aux questions du corps, et dans Ainsi parlait Zarathoustra, il écrit ça: « C'est au contempteur du corps que je veux dire mon opinion. Ils ne doivent pas changer de méthode pour apprendre et enseigner, mais seulement dire adieu à leur propre corps et ainsi devenir muets. Je suis corps et âme, ainsi parle l'enfant, et pourquoi ne parlerait-on pas comme les enfants ?
Merci beaucoup, c'est une magnifique conclusion. Christophe Granger, je recommande la lecture de votre livre « La saison des apparences, naissance des corps d'été », c'est aux éditions Anna Moza et Margot Cassan. Merci infiniment, vos deux essais « Vivre nu » et « Ultraviolet » sont édités sur Grasset et c'est du bonheur de vous lire. Elles ont le teint des personnes qui travaillent beaucoup, donc elles sont blanches à la réalisation. Claire Destacan, Jessica Bagic, Anna Massardier, Noélia Filiol et Elina Garcia sont à la préparation de l'émission. Et ce matin, la technique, il y avait Loïs Moreau et Théo de Lobadère.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.